Permettez-moi de vous interrompre moins de 60 secondes. J'ai une annonce qui va vous intéresser. Le secret du succès des plus grands entrepreneurs réside dans la puissance de leur réseau. Pourtant, très peu d'entre vous le prennent au sérieux. Mais bonne nouvelle, jeudi 16 mai de 19h à 23h30, notre 9e édition du Meetworking aura lieu en plein cœur de Paris sur les Champs-Élysées. Un événement rassemblant 250 entrepreneurs. Parfait pour échanger, partager et rencontrer d'autres entrepreneurs et y trouver votre dose de stratégie, conseils, contacts et motivation. Au programme, des conférences centrées sur les piliers de votre activité, vente, stratégie et état d'esprit, un cadre prestigieux, des intervenants experts de leur domaine à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et un apéro dînatoire pour les plus gourmands. Ce n'est pas juste un événement, c'est une chance de propulser votre activité avec des conseils éprouvés et un réseau de qualité. Attention, il reste moins de 50 places. Je vous invite donc à réserver votre place maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, en consultant notre site podcastledeclic.fr ou en cliquant sur le lien dans notre bio Instagram. Merci de votre confiance, hâte de vous y voir et maintenant, place à notre épisode du jour.
On n'a pas de raison de ne pas essayer. Et ceux qui hésitent à se lancer par rapport au reste du monde, on a une chance folle d'avoir l'éducation qu'on a eue. On a une chance folle d'être lettré, d'être capable de monter un business aujourd'hui sur Internet sans capitaux, etc. Profitons de cette chance, vous n'avez rien à perdre à essayer. En lisant, on se retrouve à pouvoir être mentoré par des gars comme Peter Lynch, des gars comme Francisco Garcia Paramés, qui ont été des gestionnaires de fonds et qui sont des gestionnaires de fonds qui ont réussi des performances hallucinantes, qui ont géré des centaines de millions et des milliards. Et ces hommes se sont posés 6 mois de leur vie pour écrire leur biographie, pour détailler leur stratégie. Et en lisant, vous vous faites coacher pour 19 euros par ces hommes-là.
Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence.
Salut Rémi.
Hello Alec.
Comment vas-tu?
Bah écoute, je vais bien, merci de m'accueillir.
Quelle belle voix. Franchement, on pourrait faire, j'ai l'impression, tu sais que vu que je t'écoute avec un casque et tout, on pourrait presque croire qu'on est sur un plateau radio, on a tous les deux un bon micro, etc. Ça va être un super échange, non pas pour la qualité du matériel utilisé et autres, mais surtout pour la qualité des propos que tu vas tenir et de la valeur que tu vas partager. Rémi, pour le présenter très rapidement, c'est quelqu'un que j'estime tout particulièrement dans son domaine. D'ailleurs, je vous inviterai à aller suivre tout à l'heure ce qu'il fait sur les réseaux, c'est vraiment le top. C'est au-delà d'être un entrepreneur aujourd'hui, c'est surtout un ingénieur passionné d'ingénierie financière. Tu connais ça sur le bout des doigts. Ce que tu racontes à chaque fois, tu as envie de l'écouter pendant des heures tellement que ça fait du sens et que c'est profond, c'est intéressant. Aujourd'hui, tu as bon nombre de clients, dont des grands entrepreneurs, des grands investisseurs, des personnalités connues, même des grands gagnants de Jeux Olympiques ou des, voilà, tout type de personnes. C'est pour dire. Et c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici sur ce podcast parce qu'aujourd'hui, sur le déclic, on va voir quels ont été les déclics de ton parcours, quels ont été les déclics qui ont fait de toi la personne que tu es et l'entrepreneur que tu es. Mais aussi, on va parler d'investissement, on va parler d'ingénierie financière. Et qui de mieux que toi pour parler de ces sujets-là? En tout cas, j'avais vraiment envie de pouvoir te donner la parole et merci pour le temps que tu m'accordes. Et avant toute chose, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Parce que c'est toujours mieux que la personne se présente par elle-même par rapport à ton parcours, ton vécu et qui tu es aujourd'hui.
Oui, bah écoute, avec plaisir. Encore une fois, merci de m'accueillir. Merci pour cette introduction qui me fait chaud au cœur. Je m'appelle Rémi de Truchy de Varenne. Je dirige du coup deux sociétés en Estonie. Une première société de conseil en gestion de patrimoine indépendant, dans laquelle on est spécialisé dans l'allocation de capital en bourse à long terme, spécifiquement orienté small cap value, je détaillerai ça un petit peu après, et également Value Investing Trainer, qui est une société dans laquelle on produit du logiciel spécifique à notre thématique. Initialement, je suis ingénieur et j'étais complètement passionné par la finance. Ma formation d'ingénieur, ma formation d'ingénieur ne m'a pas amené à être aussi créatif que ce que je l'étais finalement. Donc, je suis devenu un petit peu entrepreneur vis-à-vis de ça. Et en plus de ça, que dire de plus, si ce n'est le fait que, je suis passionné. J'ai été sportif de haut niveau. Quand j'étais sportif de haut niveau, j'étais complètement focus sur mon domaine qui était le judo à l'époque. Et quand j'ai découvert la finance, c'est devenu également une passion que j'ai surinvesti et qui aujourd'hui mon métier. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour me présenter rapidement, si ce n'est que ouais, je me retrouve aujourd'hui par ma passion et ce qu'on a pu construire à être un des rares, enfin, à être le conseiller en gestion de patrimoine que les conseillers en gestion de patrimoine consultent, en plus d'être du coup le conseiller en gestion de patrimoine de médaillé d'or olympique ouais, et de quelques gros entrepreneurs.
Et justement, c'est super intéressant aujourd'hui de t'avoir, parce que l'investissement, tu vois, sur Internet, on en entend tout et son contraire. On en entend beaucoup parler. Beaucoup de gens s'intéressent à l'investissement et ont compris aujourd'hui, de par le fait que ça a été quand même beaucoup démocratisé par certains influenceurs, certains gros auteurs, même aussi les médias de plus en plus. Mais concrètement, c'est quoi ta vision de l'investissement, toi qui es très carré, très cartésien? C'est une question très généraliste et peut-être un peu absurde même pour quelqu'un qui à qui ça fait du sens, tu vois. Mais ça attire ma curiosité. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet.
Bah écoute, très très bonne question. Alors premièrement, je dirais notamment pour l'audience d'entrepreneurs qui t'écoute, je vois l'investissement comme vraiment une notion de revenu de portefeuille. Et une notion de revenu de portefeuille est différente d'une notion de revenu d'exploitation active. J'entends par là qu'on ne peut pas attendre d'un portefeuille qu'il apporte les mêmes rendements que nos activités et que nos business. Vraiment, je vois la notion de construction de portefeuille, la notion d'allocation de capital, comme un moyen de sauvegarder une partie de ses profits pour que le jour où notre activité opérationnelle n'est plus la performance de croissance qu'elle a, n'est plus le rendement qu'elle a, et bien à ce moment-là, notre portefeuille, le portefeuille qu'on aura constitué, le coussin de sécurité qu'on se constitue, et bien finalement, prenne le relais. Et je vois vraiment ça comme un moyen d'accumuler de la richesse. Je ne fais pas du trading, je fais vraiment ce qu'on appelle du buy and hold. J'accumule de la richesse. Initialement, vous l'avez peut-être entendu avec mon nom, hein, j'ai une famille aristocratique et c'est dans mes veines que d'accumuler de la richesse. Je pense que c'est peut-être le seul héritage qui me restera vraiment, parce que j'ai vraiment fait le choix de me constituer moi-même ma fortune, et c'est mon souhait. Mais par contre, cette notion-là d'accumuler de la richesse, c'est pour moi extrêmement important. Pourtant, et je pense que c'est essentiel, et souvent, notamment lorsqu'on entend des entrepreneurs parler, ils vont parler d'aller chercher le million d'euros, etc. Et souvent, on parle de chiffre d'affaires. Mais finalement, si l'intégralité de ce chiffre d'affaires est réinvestie dans du Facebook Ads, etc., à la fin de la journée, vous n'avez enrichi que Meta. Et je vois l'investissement vraiment comme un moyen de constituer les capitaux propres d'une société, de constituer une fortune pour, à long terme, profiter d'un coussin de sécurité qui vous permettra de vivre de vos investissements d'une manière générale.
C'est super intéressant, parce que finalement, tu as vraiment cette approche, en tout cas c'est la perception que j'en ai, du bon père de famille qui va justement, un peu la stratégie Warren Buffett, qui va justement petit à petit, année après année, remettre un petit peu d'argent mois après mois, ou faire du DCA au fur et à mesure du temps. C'est peut-être le DCA, pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est un terme peut-être trop technique, qui consiste à chaque fois réinvestir progressivement de l'argent sur un actif qui est le même, mais à des prix différents. Et puis, plutôt que de rentrer, par exemple, si vous avez 10 000 euros à investir, plutôt que de rentrer d'un coup avec 10 000 euros, vous rentrez tous les mois à hauteur de 850 ou 1 000 euros pendant un an. Et utiliser les intérêts cumulés liés aux investissements pour pouvoir réinvestir derrière et avoir cette vision long terme. Je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, pour ça que aujourd'hui sur Internet, tu es plus connu sous le nom de Parlons Long Terme que Rémi directement. Et justement, c'est intéressant parce que et c'est aussi ce qui fait ton succès et toutes les personnes qui aujourd'hui te suivent, c'est que la plupart des gens, notamment les jeunes gens, quand je dis jeunes gens, c'est entre 18 et 35 ans, sur Internet, tu vois, ils sont en mode trading, ils sont en mode court terme, ils sont en mode on va faire de l'argent, on gagne ta liberté financière. Et toi, tu es aux antipodes de tout ça. Tu es vraiment, parlons long terme, on investit, on fait attention à ses finances, on a une intelligence financière qui est poussé à son maximum. Enfin, je te perçois vraiment comme ça sur les réseaux, et j'imagine que c'est le cas. D'où ça vient cette passion d'une part, et cette volonté de te constituer un patrimoine, et surtout cette prise de conscience, j'imagine relativement jeune, parce que pour avoir développé une telle expertise, avoir eu le temps de la mettre en place et puis aujourd'hui pouvoir la transmettre comme tu la transmets, ça a dû te venir très tôt. Et souvent, chez les gens, ça leur vient un peu plus tard. Donc, d'où ça devient cette passion, cette volonté de t'inscrire dans cette lignée?
Alors, je vais répondre à cette question en deux phases. D'abord, la raison finalement du pourquoi. Pourquoi investir? Parce que c'est un point, là, on a finalement juste parlé de l'investissement, mais on n'a pas parlé du sens qu'il y avait derrière. Investir en bourse à long terme, ce n'est pas uniquement réaliser du profit. Si l'investissement en bourse à long terme est depuis 200 ans la classe d'actifs qui est la plus rentable du monde, et c'est un point que je tiens à souligner, vous pouvez regarder si cela vous intéresse les graphiques et les études de l'économiste Jeremy Siegel, qui justement trace l'évolution des différentes performances des actifs au cours des 200 dernières années. Vous pouvez voir que, bien évidemment, le dollar se déprécie dans le temps parce qu'on imprime plus de monnaie qu'on en détruit. L'or est assez finalement stagnant au cours du temps parce que c'est un actif qui ne produit pas de valeur ajoutée. Par contre, par rapport à la monnaie, bien évidemment, il s'apprécie vu que la monnaie se déprécie. Les obligations, donc le fait d'être rémunéré sur un intérêt lorsqu'on prête de l'argent, c'est relativement performant. Sur 200 ans, on est autour des 3% par an, inflation déduite. Et les actifs sur du très long terme, donc les actifs produisant de valeur ajoutée, les actions, on est sur une performance annuelle moyenne d'environ 6,7 par an au cours des 200 dernières années. Et inflation inclus, on est autour des 8. Et si c'est aussi rentable, déjà c'est pour ça que j'ai choisi du coup les actions pour constituer mon patrimoine premièrement, mais c'est aussi parce que finalement lorsqu'on met son épargne dans des actions, on met son épargne au service de l'économie, et c'est vraiment, ce ne sont pas les États qui font évoluer notre civilisation, ce sont les entreprises, ce sont les créateurs de valeur, comme les appellent les Autrichiens. Je suis un grand fan de l'école économique autrichienne, hein, de Friedrich von Hayek, de von Mises, etc. Et c'est vraiment les économistes, ces économistes autrichiens soulignent l'intérêt et l'intérêt et l'importance du créateur de valeur dans une société, qui est l'entrepreneur. Et ce sont vraiment par les innovations technologiques qui sont notamment financées par l'investissement en bourse, parce que lorsque vous achetez des actions, vous permettez à des entreprises de se développer. Donc, grâce à ça, on augmente notre niveau de vie et les choses s'améliorent de plus en plus. Lorsque Airbus s'est introduit en bourse en 2005, l'entreprise a vendu une partie d'elle-même au public en faisant ce qu'on appelle une IPO, Initial Public Offering. Et grâce à ça, elle a pu derrière ouvrir de nouvelles usines, créer de l'emploi. Et ensuite, le cours va évoluer dans le temps. Et si elle veut relever de l'argent auprès du public, elle n'a qu'à émettre de nouvelles actions. Et à ce moment-là, elle relève de l'argent. Et ça sert à ça, le capitalisme. Ça sert à ça, le marché public. Ça sert à des entreprises. Ça sert donc pour les entreprises à chercher un nouveau moyen de financement lorsque des banques publiques d'investissement ne prêtent plus à hauteur de plusieurs milliards. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la bourse, pour le sens que ça a et également pour sa performance. Ensuite, le déclic, il y en a eu plusieurs. Lorsque je me suis retrouvé, j'ai eu un parcours de sportif de haut niveau, ensuite je me suis blessé assez jeune, j'ai besoin énormément de me dépenser, j'étais très bon à l'école, donc j'ai fait maths sup maths spé. Ensuite j'ai intégré une école d'ingénieur, et en école d'ingénieur, j'étais finalement assez déçu, pour revenir sur ce point, du fait de comprendre que je suis quelqu'un de très créatif, j'ai vraiment besoin de dépenser ma créativité, etc., dans différents domaines. Et ça a été une énorme déception que de comprendre que le métier d'ingénieur n'était pas un métier créatif. Et donc, assez tôt, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat pendant mes études d'ingénieur, en testant des différentes choses, en vendant un petit peu de prestations de services dans la ville où j'étais, etc. Et j'ai fait un petit peu d'argent à ce moment-là, et je me suis intéressé à comment l'investir parce que j'avais finalement cette perspective de me dire, finalement, ce métier, je risque de le faire pendant 10 ans. Par contre, il faut que je mette un maximum d'argent de côté pour pouvoir rapidement, be financially independent, retired early. Et donc, j'avais pour projet de finir ce master finalement et de partir bosser en Suisse pour mettre un maximum d'argent de côté et l'investir. Donc, il fallait que je me forme à l'investissement. J'ai deux oncles qui sont au milieu de la finance, qui gèrent des fortunes de milliardaires à Singapour, un autre qui avait codé des algorithmes pour le Crédit Suisse et la Banque de France, à peu près similaire à la boîte de tech que j'ai montée. Et ils m'ont tous les deux dit globalement, si tu dois t'intéresser à une seule chose en finance, intéresse-toi au value investing, parce que c'est la seule stratégie qui existera encore dans 80 ans. Donc, je me suis intéressé à ça. Et c'est devenu vraiment une obsession. J'allais en cours avec des bouquins de finance. Dès que je lisais un nouveau critère financier, etc., je l'implémentais dans des codes Python pour analyser derrière, d'un point de vue pratique, la donnée sur les marchés. J'ai réitéré cette méthode, et je me suis retrouvé à avoir finalement un superbe algorithme. Et à ce moment-là, parallèlement à ça, j'ai dirigé, je me souviens, en matière de déclic, parce que c'est le nom de ton podcast, je me souviens d'un voyage à Madagascar. J'ai réalisé un projet humanitaire à Madagascar dans le cadre de mes études, dans laquelle on a construit ce qu'on appelle une aquaponie dans un village à Madagascar. Et dans ce village, j'ai rencontré un restaurateur, j'adore manger, la cuisine est mon moyen de décompresser, qui s'appelait Daniel, et il cuisinait vraiment magnifiquement bien. Ce mec était... Ce mec avait 47 ans quand je l'ai rencontré. Et bref, on se lie d'amitié. Et à un moment donné, je lui demande de me raconter son histoire. Et il me raconte que jusqu'à ses 40 ans, il était piroguier. Et je les voyais, ces piroguiers. Ils étaient dans une espèce de pirogue de fortune avec une voile en toile de riz, etc. Il m'a dit, jusqu'à ses 40 ans, il est piroguier. Et lors de son 8e enfant, il se dit, mince, je vais me retrouver finalement... à pas pouvoir, peut-être que je mourrai avant qu'il ait 18 ans, je ne pourrai pas subvenir à ses besoins avant qu'il soit adulte, etc. Il faut que je trouve une solution. Et donc, il va se mettre à ne pas vendre le poisson qu'il récolte, mais il va se mettre à le cuire sur la plage pour avoir des meilleures marges. Grâce à ses bénéfices, il va acheter un petit bout de plage. De ce petit bout de plage, il va construire un resto. Et ensuite, quand je le rencontre, il avait 4 bungalows sans eau courante, un petit restaurant donc à Manguili, à Madagascar. Et c'était un petit peu l'entrepreneur à succès du village. C'est un village très pauvre. Et il me raconte ça avec beaucoup de fierté, son parcours est magnifique. Et ensuite, il me dit, et toi Rémi, quel est ton parcours ? Et je me rends compte que j'ai un carré d'as en main, pour pas dire une canne flush, quand lui, il a un 2 et un 3, et que je vais renoncer à mon rêve que d'être entrepreneur, que d'être rapidement indépendant financièrement, que d'être l'homme créatif et libre que je suis, pour aller bosser dans une multinationale en Suisse pour finalement enfin et perdre 10 ans de ma vie alors que je ne perds rien à essayer. Et tout ça parce que je n'ai jamais été dos au mur vis-à-vis de la situation familiale dans laquelle j'ai été élevé. Et donc quand j'ai fait le choix d'être entrepreneur, d'ailleurs c'était du coup à la fin de mes études, j'ai pris un aller simple pour Tallinn en Estonie. J'avais 800 emails grâce à mon début de chaîne YouTube et 2 clients, c'est tout. Et je me suis mis dos au mur, j'ai demandé à mes parents et à tous mes proches de vraiment rien me filer pendant un an. Je voulais vraiment me mettre dans cette situation, je n'avais pas le choix. Et j'ai pris le téléphone et j'ai proposé à toute personne qui le souhaitait un appel gratuit avec moi pour savoir comment je pouvais les aider. Et c'est vraiment, je pense, dans tous mes déclics, je pense que ce voyage à Madagascar et le fait de me dire que, on n'a pas de raison de ne pas essayer. Et je dis ça vraiment à tous tes auditeurs, ceux qui hésitent à se lancer par rapport au reste du monde. On a une chance folle d'avoir l'éducation qu'on a eue. On a une chance folle d'être lettré, d'être capable de monter un business aujourd'hui sur Internet sans capitaux, etc. Profitons de cette chance, vous n'avez rien à perdre à essayer.
Ouais, totalement. C'est incroyable ça comme histoire. Le monsieur à Madagascar qui parti de rien justement arrive à mettre ça en place, et toi la prise de conscience que tu en as quelques années plus tard,
ça m'avait
et le déclic
mis une baffe énorme. Ouais.
Ouais, ouais. Le déclic que ça te crée, c'est absolument dingue. Et un autre sujet, c'est voilà, tu alors je connais pas ta situation familiale, mais j'imagine par déduction qu'elle était relativement agréable et aisée. Et c'est vrai que dans ta situation, il y aurait bon nombre d'individus qui, malgré ça, se seraient dit « Ok, donc je ne vais pas forcément aller dans ce grand groupe en Suisse et avoir ma carrière pendant 10 ans pour pouvoir accumuler un bon salaire et puis pouvoir investir, mais je vais créer une boîte et donc je vais demander des financements autour de moi pour pouvoir lancer ma société. » Alors que toi, non, tu as fait tout le contraire. Tu dis « Ok, bah, j'ai… » 2 clients potentiels ou 2 clients, 800 abonnés sur YouTube parce que j'ai commencé à faire ça. Je pars à Tallinn à l'aventure avec 0 euros. Je veux que personne me donne rien du tout. Et je vais vraiment bootstrapper mon projet d'accompagnement et de logiciel en partant de rien du tout. Et qu'est-ce qui fait que tu te dis, alors que, encore une fois, tu avais, je pense, dans ta situation, que tu avais quand même une certaine façon un peu ce choix de pouvoir soit continuer sur la voie salariale, mais un peu une voie royale, une voie en or, soit démarrer un projet, mais tu aurais eu certainement des facilités, j'imagine en tout cas, à avoir du soutien de par tes proches, ta famille ou peu importe, ou alors la voie opposée complète, partir de zéro, aller dans un pays que tu ne connais pas, seul, pour bootstrapper un projet en partant de rien. Qu'est-ce qui fait que tu choisis la troisième option ? Alors que je pense beaucoup de gens auraient choisi la une ou la deux.
Ouais, pour éclaircir la situation, je fais mon stage de fin d'études chez Philippe Maurice International en Suisse. Je le fais dans le bâtiment de direction de la partie technique de Philippe Maurice Monde, du coup. Et je leur construis tout un système de traitement et de gestion de leurs normes. Un prototype parce qu'ils cherchaient à changer de tous leurs moyens de gérer leurs normes, etc. Et ils me proposent un salaire de 8000 euros par mois quand je fais le choix de me barrer en Estonie. Donc j'ai vraiment Donc mes parents m'ont vraiment pris pour un fou, comme tout le reste de ma famille et de mes proches. Et je fais ce choix-là. Parce que d'une manière générale, j'essaie vraiment d'apprendre des autres et des erreurs des autres. globalement, toute ma stratégie en bourse, c'est le distillé de tous les livres et de tous les rapports annuels et de tous les gestionnaires de fonds qui m'ont inspiré. Et dans tous les discours d'entrepreneurs que j'ai pu entendre, j'en connaissais aucun qui ayant la trajectoire d'un start-upper subventionné, réussisse d'une façon assurée. Alors que des entrepreneurs dos au mur, morts de faim, qui n'avaient pas le choix, c'est globalement ce qui ressortait le plus de toutes les success stories qui m'inspiraient le plus. Et je voulais pas du tout. Je voyais le potentiel cimetière qui avait derrière moi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le degré de réussite que j'atteins, il y a un vaste cimetière de gens qui sont derrière moi, dans le sens des gens qui ont essayé d'atteindre le même succès et qui n'ont pas réussi. Mais je pensais sincèrement qu'en fait, ma probabilité de chance de réussite en allant à Tallinn en Estonie, en optimisant dès le début ma fiscalité, en profitant du coup d'un avantage fiscal qui est celui de pouvoir réinvestir 100% de ses bénéfices en bourse à long terme, sachant que c'est mon métier, et de rencontrer également des gens qui, là-bas, savent monter des business profitables, ça allait maximiser mes chances de réussite. Et également, j'ai lu largement assez de rapports annuels dans ma vie pour comprendre qu'une boîte qui réussit, c'est une boîte qui réduit son endettement, qui est encore dirigée par ses fondateurs, qui maximise ses marges. Et ça, je n'allais pas l'apprendre à Station F. Ça, je n'allais pas l'apprendre à Station F parce que quand tu entends des discours comme Oussama Hamar, qui est une connaissance et que je respecte beaucoup, ils sont beaucoup plus quand même dans le all-in, dans le fait de réinvestir justement l'intégralité du chiffre d'affaires dans la croissance, plutôt que dans le fait de consolider des capitaux propres et de construire un patrimoine. Mon but n'était pas de construire la nouvelle start-up de Station F. Mon but, c'était de construire une activité qui allait servir avec justesse mes clients et d'une manière générale les personnes qui allaient être intéressées par ce que je produis, tout en me constituant un patrimoine qui allait me permettre d'être libre. Et de ce point de vue-là, l'option 3 était juste la meilleure.
C'est super intéressant. Une approche très cartésienne de la chose, mais qui finalement fait extrêmement de sens, parce que tu t'es posé les bonnes questions et tu as calculé ton risque tout en te disant « Ok, factuellement, c'est la voie qui me paraît la meilleure dans l'état des choses. » Et c'était il y a combien de temps que tu as fait ce choix, que tu es parti à Tallinn, tu as lancé ton business ?
Alec, c'était il y a un an et demi.
Ouais, c'est incroyable. Et au départ, quand tu as démarré, tu as lancé ton business, tu n'avais pas encore ce logiciel que tu as lancé très récemment, il y a de ça quelques semaines maintenant. Tu faisais plus de l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur c'était quoi tes prestations au départ? Comment est-ce que tu t'y es pris? Parce que voilà, il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent, qui ont un talent, ont une compétence, ont une expertise, démarrent de zéro. Et là, ils se disent, waouh, j'ai un mec... En ligne là, il y a un an et demi, il démarrait de zéro. Il avait ce talent, cette compétence, cette expertise, quelques centaines d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et il en est là où il en est aujourd'hui. On va parler de chiffres après et cette ascension et ce que tu as mis en place. Mais on peut le dire que c'est vraiment très beau ce que tu as mis en place. Mais justement, dis-nous en plus sur ton mode opératoire quand tu démarres.
Ça vient d'un... Je pense que, encore une fois, j'ai eu énormément de chance dans mon parcours et j'ai énormément de gratitude pour toutes les personnes que j'ai pu croiser, dont toi et dont surtout beaucoup de mes clients également. Et je tiens à le souligner, qui m'ont pour beaucoup appris au moins autant que ce que je leur ai apporté et rapporté. Et je vais te parler du coup de mon deuxième déclic qui est donc avant de partir en Estonie. On est, je pense, en juin 2020. J'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai 300 abonnés à ce moment-là. Et il y a un homme qui commente une de mes vidéos, et ce gars s'appelle Jean-Louis, et il commente une de mes vidéos en ayant des questions particulièrement pertinentes. Donc je lui réponds et on commence à avoir un échange en commentaire, et je lui mets mon email en lui disant écoute, envoie-moi ton portefeuille par email et on en discute. Et là je vois que Jean-Louis vient de poser 500 000 euros en bourse sans rien y connaître. J'en parlerai à Jean-Louis après, et que globalement son portefeuille n'a pas été très bien construit. Et donc je vais auditer gratuitement son portefeuille, je vais le reconstituer, le remodeler, le rendre plus efficient, moins exposé, et l'histoire est que globalement en 20 mois il a fait plus de de 72% de performance sur ses 500 000 euros. Et ce gars est un entrepreneur qui se retrouvait à être en situation d'exit et qui, du coup, avant de récolter le fruit de cet exit, testait plusieurs véhicules d'investissement. Et suite au crash du Covid, il s'est dit, ben, c'est pas cher, on va tester la bourse en posant 500 000 euros dessus. Et Benjamin Louis, ça a été mon premier client. J'avais encore tout à l'heure au téléphone. C'est devenu depuis un ami et finalement aussi un mentor d'une certaine façon. Et quand je lui ai apporté ce service-là, il m'a dit « Mais écoute Rémi, tu ne te rends pas compte, j'ai cherché toute ma vie un mec comme toi. À chaque fois que je serre la main de mon banquier, il me prend 3%. À chaque fois que je serre la main d'un conseiller en gestion de patrimoine, il va me recommander une assurance vie pourrie sur laquelle il est commissionné 5% à la performance. Et toi, tu arrives et tu fonctionnes en mode indépendant. » Et ça a été du coup, il m'a dit « Tu n'as pas le droit de ne pas te lancer. » Et j'avais... Tout de même, hein, je tiens à le souligner, sinon je n'aurais pas créé cette chaîne YouTube avant qu'il me sollicite. J'avais cette idée-là, mais finalement, il me dit vraiment, vas-y, et je suis ton premier client. Donc, je lui dis, écoute, tu me paieras plus tard, etc. J'attends d'avoir la boîte en Estonie pour encaisser tes thunes. Et donc, on a attendu 6 mois. J'ai continué à l'accompagner pendant 6 mois en lui faisant complètement confiance. Et je pense que la confiance, d'ailleurs, dans tout le succès qui s'en est suivi, ça a été vraiment un point clé. On y reviendra. Et donc, arrivé en Estonie, eh bien, il me rémunère de la prestation. Ça m'a permis d'avoir ce premier client. Et ça, ça a été du coup vraiment un second déclic qui m'a amené là. Et ensuite, du coup, j'avais ce premier client, j'avais cette première expertise et j'ai une seconde personne que tu connais qui me contacte, Alec. Cette seconde personne, c'est Adam Ilaya.
Ah, ok, ouais, je vois qui c'est. Et, ah ouais, totalement.
Et pareil, du coup, Adam me contacte. Et il me contacte, on est en janvier ou février, juste avant que je parte en Estonie. Et il voit mon contenu, il me dit « Écoute, j'ai vu ton contenu, je veux que tu me formes en bourse. » Et moi, à l'époque, je me suis dit « Super, je pars en Estonie, je construis des portefeuilles, ça sera mon business. » Et donc, je lui réponds gentiment « Je ne suis pas prof particulier, quoi. » Et il me dit « Si, je veux que tu me formes. » Et je lui dis non. Et il insiste. On s'est au téléphone, il dit « Je vais te faire une vraie proposition, etc. » Finalement, on s'accorde sur un prix qui est en effet plus qu'alléchant. Donc, j'accepte et je forme Adam. Et je me retrouve du coup à le former dans le cadre de séances de consulting, tout simplement. Et je l'accompagne comme ça sur 4 séances. Et donc, je me retrouve à avoir 2 offres. Une offre de construction de portefeuille qui a été le résultat de la demande de Jean-Louis et l'offre d'Adam. Et donc, j'arrive en Estonie et j'envoie un email à ma base mail en leur disant, écoutez, si ça vous intéresse, remplissez ce questionnaire et je prendrai le temps de vous avoir gratuitement au téléphone pour savoir si je peux vous aider en ayant en tête finalement 2 produits. Et en accompagnant des gens sur ce format de consulting, j'en ai construit peu à peu en fait, une formation en ligne pour ne pas me répéter et pour proposer mes services à un prix plus abordable. Et puis, les choses se sont enchaînées naturellement ensuite pour la faire courte sur cette notion de lancement.
C'est assez dingue parce que finalement, de par le fait que tu avais un produit de qualité, tu maîtrises ton sujet, ça s'est fait extrêmement naturellement. Et en même temps, tout découle de 2 individus, Jean-Louis et Adam. Jean-Louis, respectivement, qui du coup était un peu la bonne surprise, hein, parce que pour que tu aies 300 abonnés sur ta chaîne, c'est incroyable. C'est incroyable, Internet, quand même, comme ça peut parfois créer des opportunités. De l'autre côté, Adam qui force. mais ça dénote quand même, parce que Adam, le connaissant, tu vois, il est dans la sphère infoprenariale, coaching et j'en passe depuis à peu près 2017-2018. Donc, tu vois, ça fait 4-5 ans qu'il connaît ce monde-là, qu'il gravite autour de ce monde-là et qui a même à certains moments de sa carrière entrepreneuriale, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, a été acteur de ce monde-là. Et pour qu'il insiste sur le fait qu'il veut que ce soit toi, spécifiquement toi, la personne qui va le faire monter en compétence dans ce sujet spécifiquement, sachant qu'il est quand même assez malin comme personne, il avait vite compris que tu maîtrisais vraiment ton sujet et qu'il y avait un réel potentiel à savoir ce que tu avais en tête. Donc ouais, c'est intéressant. C'est 2 très bons signaux et tu as su rebondir de manière très efficace sur ces signaux. Aujourd'hui, en termes de chiffres, c'est-à-dire en termes de nombre de personnes que tu as accompagnées, de chiffre d'affaires sur ta formation ou au global sur 1 an et demi là, que tu as pu générer, où est-ce que tu te situes, que ça puisse donner aussi une sorte de baromètre du succès, vu que tu parlais avant de succès, à celles et ceux qui nous écoutent par rapport à ta situation initiale.
Je te remercie pour tes mots, hein, au sujet d'Adam. Je partage complètement le fait que c'est pareil, hein, c'est devenu une personne qui m'inspire. On échange encore aujourd'hui ensemble et dernièrement, on a échangé justement sur des stratégies de réseaux sociaux, etc. Bref, souvent, mes clients se retrouvent à être derrière mes mentors et c'est toujours un plaisir. Et encore une fois, voilà, n'ayez pas, je pense que ce qui a permis ce succès-là, c'est aussi vraiment le fait d'aller vers les gens. Si on a un très bon produit et qu'on reste assis sur la place centrale, c'est difficile d'avoir des clients, mais derrière, il ne faut pas hésiter à faire la démarche de prendre les gens au téléphone, je pense. C'est vraiment quelque chose qui permet un certain degré de succès. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire ça. Ensuite, pour ce qui est du coup de cette question des chiffres, très, très bonne question. Concrètement, à l'heure actuelle, on a accompagné environ 400 personnes dans 15 pays au bout d'un an et demi. En termes de chiffres, le mois dernier, sur notre logiciel, on fait 120 000 euros de chiffre d'affaires. Et sur formation plus consulting, c'est difficile à... Je pense que je vais donner une fourchette parce que je ne saurais pas te quantifier ça exactement parce que j'encaisse différentes choses sur ma société par long terme OU et on doit être entre 30 et 45 000 euros de chiffre d'affaires sur la partie formation, accompagnement et ça varie d'une manière générale entre 25 et 60 000 euros par mois, quoi.
D'accord. Bon, déjà, c'est excellent et félicitations. Et je suis content en plus de voir qu'il y a eu une évolution parce que nous, on s'est vu il y a de ça quelques mois maintenant en Estonie justement pour un mastermind. Et je me souvenais un petit peu de tes chiffres et autres, notamment en termes de nombre d'étudiants formés et tout ça. Et ça a super bien évolué. Puis surtout, tu étais en pleine préparation de ton logiciel. Et là, ça a plus qu'évolué parce que tu l'as lancé. Et puis maintenant, c'est un franc succès et ça n'est que de bon augure pour la suite. Et je pense que tu réponds vraiment à une problématique marché conséquente, on va en parler dans quelques minutes, mais au-delà de ça justement, pour se situer, reprenons l'histoire de Jean-Louis qui a posé ses 500 000 euros, tu as dit en 20 mois, il a fait à peu près 72% de performance sur ses 500 000, et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a déjà deux choses à se dire, c'est que la première, vu que tu as reconstitué son portefeuille qui avait été mal constitué selon tes propos, tu lui as potentiellement évité de perdre beaucoup d'argent. Au-delà même parler de performance, tu t'as évité à cette personne et à beaucoup d'autres de perdre de l'argent. Et derrière, tu lui as fait de la performance. Donc, typiquement, avec le niveau d'exposition, j'imagine que tu avais donné, faire 72% de performance, c'est une très, très belle performance. Parce qu'on n'est pas sur de la crypto. On parlera après de ton avis sur la crypto éventuellement. On est vraiment sur des choses concrètes, sérieuses, qui sont là depuis des dizaines d'années. Je ne dis pas que les cryptos sont pas sérieuses et autres. Moi, je suis assez dans les cryptos et c'était justement un débat qu'on avait eu tous les deux. Mais je veux dire que tu es sur d'autres types d'actifs. Et justement, pour ce type de performance, quel deal tu as ? Est-ce que tu as un deal au variable ? Est-ce que tu as un deal donc au pourcentage de performance ? Est-ce que tu as un deal fixe ? Exemple, écoute, moi, mon consulting et ma révision de ton portefeuille s'élève à, je te dis une bêtise, 5 000 ou 10 000 euros et ça s'arrête là. Comment tu gères justement ce type de prestation ? Ou est-ce que c'est à la tête du client, entre guillemets ? Tu vois, si par exemple, je vais avoir 2 millions à placer il y aura une facturation différente et un consulting différent. Dis-nous en plus à l'égard de tes prestations et de comment tu fonctionnes.
Oui, alors par rapport à justement ce marché dont tu parlais, hein, le marché d'Internet, je suis accrédité par l'autorité du marché financier, donc je fais attention à ne pas faire n'importe quoi. Et vis-à-vis de ça, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine du coup indépendant, je n'ai pas le droit d'être rémunéré aux variables.
D'accord.
Donc, je suis obligé d'être rémunéré à l'honoraire. Donc, okay. Vis-à-vis de ça, je me rémunère tout simplement à l'honoraire. J'ai un honoraire sur une prestation de consulting et d'audit de portefeuille. Enfin, je prends 500 euros de l'heure, hein, tout simplement. Et derrière, par contre, sur des constructions de portefeuille, eh bien là, ça va être des tarifs qui vont être plus élevés. On parle de tarifs entre 5 et 20 000 euros à l'heure actuelle, qui vont varier selon notamment le degré de complexité de ce que l'on me demande. Voilà. J'ai des gens qui vont me contacter en disant j'ai envie de sécuriser mon patrimoine hors zone euro sur des actifs à connotation durable. J'ai d'autres personnes qui vont me demander d'autres choses, de maximiser un dividende pour s'assurer d'avoir une rente de 12% par an majoritairement dans le Pacifique. Ça va être d'une manière générale, mes clients sont assez éduqués.
Ah, j'ai l'impression, ouais.
Au moins Bac plus 5, j'ai beaucoup de chirurgiens, de docteurs, d'ingénieurs aussi, ben, qui forcément par biais d'associations sont intéressés par ce que je propose. Mmh. Et puis également, en ayant fait intervenir le fils de Charles Gave, Louis-Vincent Gave, qui gère 3 milliards sur ma chaîne YouTube, ou en étant partenaire de Passivia, qui est le manager de fonds qui a eu les meilleures performances du monde l'année dernière en stock picking de small et middle cap value. Je suis également associé à des gens sérieux, ce qui forcément filtre aussi. Et ceux qui s'intéressent à ce genre de personnes sont généralement assez éduqués sur le sujet pour savoir que, typiquement, dans le monde de la bourse, les actifs qui, statistiquement, même d'un point de vue indiciel, sont les plus rentables, sont les petites actions sous-évaluées, notamment parce que les institutionnels, par rapport au volume de liquidité, ne peuvent pas s'exposer à ce genre d'actifs, ce qui permet d'avoir plus d'anomalies de marché. Et c'est réellement sur ces anomalies de marché-là que je vais, à titre personnel, du coup, me positionner pour acheter des choses moins chères que ce qu'elles ne valent.
Mmh. Ouais, c'est super intéressant et c'est vrai que tu soulignes un sujet, c'est que la clientèle que tu as vraisemblablement est relativement éduquée, ne serait-ce par les propos que tu as tenus là il y a quelques instants. Alors que tu vois, moi par exemple, je te dirais, écoute, je gagne tant, je fais tant de marge, je prends tant de salaire, j'ai envie de placer tant par mois et donc par an tant. J'ai pas envie de prendre trop de risques, j'ai envie de faire de la performance. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, typiquement, ça serait sensiblement le type de discours qu'un mec comme moi pourrait tenir. Et encore, je me considère comme étant à minimum
éduqué dans le domaine, quand même.
Éduqué et conscient du domaine, tu vois. Mais à des années-lumière de ton niveau ou du niveau que tu as pu évoquer, ou encore, bon, je tire le trait un petit peu pour te faire une caricature. Mais tu comprends un petit peu la chose. Et ma question, c'est est-ce que tous tes clients sont autant éduqués ou est-ce que justement, quand tu as mis en place la formation, désormais, ça leur fait peut-être monter en compétences, prendre conscience de ce, je ne vais pas dire nouveau monde, mais que ce monde existe et que derrière, investir, c'est vraiment un art, c'est vraiment un métier. Ne serait-ce que par le fait qu'aujourd'hui, tu vois, avec les différents conflits géopolitiques, l'incertitude qui règne autour, ne serait-ce que de la zone euro, etc., le dollar qui prend, qui est un petit peu malmené ou autre, il y a plein de choses qui se passent, l'inflation, etc., etc. Tu vois, c'est tout des trucs qui sont extrêmement importants par rapport à une stratégie d'investissement qu'il faudrait être posée. Mais que la plupart des gens, moi y compris, à part en savoir un petit peu à gauche à droite par des on-dit ou par des news, ne maîtrisent pas, tu vois.
Alors, pour répondre à ta question, j'ai des clients qui ne sont pas éduqués. Après, d'une manière générale, par rapport au positionnement que j'ai sur YouTube, généralement, j'atterris. On tombe sur une vidéo qui parle de bourse, on tombe sur une autre, et par ricochet, si on se retrouve à être intéressé et passionné par le domaine, à la fin du tunnel, il n'y a pas le long terme, quoi. Donc, d'une manière générale, les gens qui s'intéressent à moi ont déjà écouté beaucoup de contenu au sujet de la bourse. Maintenant, j'ai tout de même des offres pour ceux qui n'y connaissent rien, notamment, tu vois, j'ai des amis d'école d'ingénieurs qui me disent « Écoute, Rémi, j'y connais rien, mais j'aimerais vraiment suivre tes conseils pour placer mon argent. » À ce moment-là, on construit juste un portefeuille assez simple, soit indiciel, généralement c'est plus un portefeuille indiciel, mais bien réparti sectoriellement, bien réparti géographiquement sur différentes tailles d'actifs, et ça fait déjà très bien la chose pour avoir une performance supérieure de 1 à 2 points par rapport au benchmark en prenant en compte l'apport de quelques corps satellites au portefeuille, mais d'une manière générale, les clients sont assez éduqués. Après, de plus en plus, je me retrouve à être sollicité par des entrepreneurs, notamment comme toi, Taline, tu vois, qui ont des patrimoines assez importants. Et ce que je fais sur les prestations, du coup, à étiquette de construction de portefeuille, c'est qu'avant d'aller sur la construction de portefeuille, je prends vraiment le temps de faire généralement 2 à 3 séances de coaching dans lesquelles je vais présenter toute la stratégie en détail et chacun des actifs sur lesquels on va se positionner pour que mes clients comprennent de manière précise et juste ce vers quoi on va, pour qu'ils puissent se rétracter si ça ne leur leur convient pas, pour qu'ils puissent commenter au sujet de ce portefeuille. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on y va. Et après, oui, vraiment, dans ma formation, il y a vraiment une réelle montée en compétences qui s'opère. Je me retrouve, d'ailleurs, c'est assez marrant, à former de plus en plus d'influenceurs en sujet de la bourse également dans mes contenus, et c'est tant mieux, parce que la connaissance mérite d'être partagée. Plus on sera nombreux à partager cette connaissance, moins de particuliers il y aura lésés par des assurances vie en fonds euros pourris ou autres, et si je fais ça, c'est pour être libre, et c'est aussi pour rendre un maximum de gens libres. Je pense qu'on avait déjà eu cette discussion, mais j'ai aucune rétention. Je ne sais pas si c'est avec toi que j'ai eu cette discussion, mais je n'ai vraiment aucune rétention à avoir, tu vois, des concurrents dans mes formations qui profitent de mes contenus et qui, à terme, partageront cette parole et ces connaissances, parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on sensibilisera notamment les Français. Je pense aux Français, je suis français à la base, je sais que tu es suisse, mais en France, on a vraiment un tabou au sujet de l'argent et de l'investissement qui est assez dramatique. Tu as moins de 8% des Français qui investissent en bourse, et quand on voit l'état de notre fonds associé à la retraite, ça fait peur, et je souhaite vraiment sensibiliser un maximum de gens à ce sujet pour qu'ils s'assurent finalement une retraite d'une part, et anticiper si possible, ça sera encore mieux. Et voilà. Et donc, différents profils de clients, et on a des coachs aussi. On ne produit pas que de la formation uniquement, on fait donc avec mon bras droit, avec Timothy, on a essayé de vendre de la formation uniquement, mais il y avait des gens qui achetaient la formation sans suivre les contenus, et ça, c'était hors de question pour moi, de former des gens qui finalement ne sortent pas avec la connaissance alors qu'ils ont acheté mes produits. Donc on a obligé, donc aujourd'hui on ne vend plus aucun produit de formation sans qu'il y ait finalement un apport de coaching, je sais pas, en long terme, pour que vraiment s'assurer du montant en compétences, en fait, de nos clients.
Ah, c'est super intéressant, ça, cette vision. Moi aussi, j'avais fait ce constat édifiant que la plupart des gens qui achetaient une formation, même parfois à 1000, 2000 euros ou plus, il y avait seulement 20 à 30% des gens qui allaient vraiment regarder la formation. Donc, on avait aussi mis en place des coachings, mais même à certains moments, tu sais, on avait une personne qui est responsable succès client. C'était vraiment son rôle, son job, son titre. Et elle relançait certains clients qui étaient des clients fantômes, on les appelait, les ghosts. Ils avaient même un petit, tu sais, le petit émote sur l'iPhone fantôme. On avait mis ça dans la fiche Notion à côté de leur prénom. C'était vraiment une catégorie où, malgré des relances, des emails et autres, même si on était dans la démarche, par exemple, de vouloir les contacter pour les rembourser, il n'y avait pas de réponse. Et ça représentait au moins 5 à 7% selon les périodes de nos acheteurs. Donc, c'est assez dingue, effectivement. Et je pense que tu as eu raison de mettre en place cette dimension, ouais, d'accompagnement. Ouais.
Et en ayant finalement, en faisant encore aujourd'hui, bon là je vais devoir à terme arrêter, mais en faisant le premier appel, je fais vraiment attention aux gens que je prends. J'ai encore avant-hier refusé quelqu'un qui aurait largement, avec un script commercial même mauvais, hein, je ne suis pas un excellent commercial, qui aurait largement accepté l'offre, parce que mon offre, honnêtement, il faudrait que je te la présente. Enfin, tu te sens bête de dire non, elle est extrêmement juste, elle est extrêmement performante, mais on l'a refusée parce que au stade où elle en était, il fallait qu'elle se focalise sur la génération de ses revenus. Parce que, enfin, le step 1, c'est sur la création de son épargne de sécurité. Avant d'investir, le step 1, c'est quand même d'avoir un salaire. Le step 2, c'est quand même de se constituer une épargne de sécurité qui, d'une façon traditionnelle, correspond à 6 mois de salaire ou 6 mois de dépenses de vie courante. Et ensuite, on peut songer à une allocation de capital et à des investissements à long terme. Mais si ce n'est pas le moment, ou si je sens que le profil n'est vraiment pas qualifié pour une formation et que le profil pense que globalement, le simple fait d'acheter va résoudre le problème, je refuse de proposer l'accompagnement.
Ah, c'est super pertinent, et ça m'étonne pas de toi, te connaissant. Un autre sujet, tu parlais de différentes classes d'actifs. Quel est ton ressenti sur la classe d'actifs des crypto-monnaies et ton avis sur le sujet?
Il faudra qu'on approfondisse quand même le sujet des classes d'actifs de la bourse, parce que c'est quelque chose que je maîtrise plus que les crypto-monnaies. C'est un point que je tiens à souligner, c'est-à-dire que je ne suis pas omniscient, je suis compétent dans un domaine, c'est l'allocation de capital en bourse à long terme. Alors, on peut éventuellement parler de marché obligataire, parce que j'y ai été sensibilisé en étant mentoré par Louis-Vincent Gave, mais pour ce qui est de la classe d'actifs des crypto-monnaies d'une manière générale, je vais te dire ceci. Dans l'histoire de l'économie, si tu remontes au XVIIe siècle et même avant, au XVIe, avec la première bulle économique des, des tulipes, il y a toujours eu une erreur. Donc, 1720, bulle des compagnies des mers du Sud, dans laquelle Newton lui-même finit ruiné. Il y a ces mots qui retentissent, cette fois-ci c'est différent, résultat c'est une bulle, ça se crache. Bulle des chemins de fer, Railway in Mania, 18e siècle. Une technologie hallucinante apparaît, la technologie des trains, ça va bouleverser le monde, et donc on surinvestit ces technologies, résultat, ça crache. Bulle de l'automobile, début 1900. Truc hallucinant, l'automobile arrive, ça va bouleverser le monde, et ça a bouleversé le monde. Des centaines et des milliers de compagnies automobiles voit le jour, et aujourd'hui, de ce lot-là, il reste globalement Ford. Toutes les autres sont mortes. Début des années 2000, bulle économique associée aux nouvelles technologies. Une technologie hallucinante arrive, elle changera le monde, elle s'appelle Internet, et on se retrouve à surévaluer des actifs par rapport à ce qu'ils devaient. Et aujourd'hui, une nouvelle technologie voit le monde, on dit encore une fois, cette fois-ci c'est différent, ce sont les crypto-monnaies, et je te laisse présager de la suite. Bon, là-dessus, un point que je tiens à souligner, c'est qu'est-ce qui me permet de dire que c'est une bulle. Ce qui me permet de dire que la bulle, par exemple, Internet était une bulle, bon aujourd'hui c'est avéré, hein, mais c'était notamment le fait qu'on allait acheter des entreprises comme Yahoo, 120 fois ses bénéfices. En finance, on a notamment un ratio assez simple, hein, de valorisation qui s'appelle le PER, le Price Earning Ratio, qui consiste à comparer la capitalisation boursière au revenu net que génère l'entreprise. Par exemple, si on achète un appartement 100 000 euros et qu'il nous ramène bien 10 000 euros de bénéfices annuels, on a un PER de 10. Donc globalement, en 10 ans, si les revenus sont stables, on rentre dans nos bénéfices en tant qu'actionnaire dans l'hypothèse où l'intégralité des bénéfices sont reversés. Avec un PER de 120, tu mets 120 ans à rembourser ton investissement. Ce n'est pas difficile de savoir que c'est une bulle à ce moment-là. Et ça a été un petit peu la même chose à la fin 2020. On était sur un cycle haussier, d'où les performances d'ailleurs du portefeuille de Jean-Louis, hein, qu'il faut tempérer par rapport à la réalité du cycle économique dans lequel ça a été fait. Et aujourd'hui, du coup, il y a un nouvel actif qui arrive. Et cet actif, ce sont les cryptos. Et encore une fois, on se dit, cette fois-ci, c'est différent. Et l'écueil dans lequel, selon moi, on tombe, c'est celui de se dire que la technologie a une valeur. Internet n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'entreprise qui est créée dessus. Internet n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est Google. Une entreprise qui utilise cette technologie pour produire de la valeur ajoutée en prenant une commission sur en vendant de la pub pour ce qui est de Google. Si tu me parles d'une entreprise comme Coinbase, dans l'hypothèse où les crypto-monnaies perdurent, je te dis why not? Ça, pour le coup, dans tout le monde des crypto-monnaies, si vous deviez vous exposer aux crypto-monnaies d'une seule façon, acheter une boîte cotée en bourse qui évolue dans ce secteur-là et qui produit une valeur ajoutée en prenant une commission. D'une manière générale, Warren Buffett, à juste titre, différencie trois classes d'actifs. L'IM, l'actif monétaire, donc c'est les monnaies, hein, et investir dans les monnaies, c'est faire le pari que l'État détruira plus de monnaie qu'il n'en imprime, c'est une bêtise. Les actifs spéculatifs sans valeur ajoutée, et pour reprendre les mots de John Maynard Keynes, ça revient finalement à participer à un concours de beauté dans lequel on ne mise pas sur la plus jolie femme, mais sur laquelle finalement les autres vont miser. C'est selon moi ce que vous faites quand vous investissez dans le Bitcoin. On n'investit pas dans le but de conserver quelque chose sur du long terme, comme tu investirais dans une terre pour qu'elle te rapporte des fruits. Tu investis dans l'espoir de revendre ça un jour plus cher à quelqu'un d'autre. Et ensuite, tu as les actifs produisant de la valeur ajoutée comme une terre, comme une entreprise qui finalement, à qui tu vas prêter de l'argent et qui va pouvoir derrière produire de la valeur ajoutée. Une entreprise comme Philip Morris International que j'ai cité, dans laquelle j'ai travaillé. C'est une entreprise qui, depuis 1920, a eu un total return, donc une performance dividende réinvestie de plus de 17% par an. Parce qu'elle vend quelque chose qui coûte quelques centimes à produire, quelques dollars, et que c'est habit forming. Que ça crée de l'habitude. Et en faisant ça, elle a perduré dans le temps et elle a produit de la valeur ajoutée. Si tu regardes le premier prix auquel un Van Gogh a été vendu et au prix auquel cote la moyenne des Van Gogh à l'heure actuelle, tu es plus sur une moyenne en total return de 11-12%. Donc à l'heure actuelle, Philip Morris a été un actif plus rentable qu'un Van Gogh parce qu'il produit de la valeur ajoutée. Et je suis à titre personnel focalisé sur les investissements produisant de la valeur ajoutée, et je ne veux dans mon patrimoine et dans mon portefeuille uniquement des actifs produisant de la valeur ajoutée, et je ne rentre jamais en position si je n'ai pas prévu de garder un actif plus de 10 ans, parce qu'encore une fois, mon but, c'est d'accumuler. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas exposé du coup au monde des cryptos, qui sont selon moi des actifs spéculatifs sans valeur ajoutée, qui sont qui plus est en plus à l'heure actuelle complètement surévalués par rapport à la tendance économique qu'on leur connaît, bien qu'il y ait une correction logique.
Tu disais, je ne suis pas forcément bien placé pour répondre à cette question, mais moi, je suis obligé de te le dire. Je ne regrette absolument pas de t'avoir posé cette question, de par la réponse ultra claire et pertinente que tu viens de nous fournir. Et je pense que c'est pareil pour la plupart des gens qui nous écoutent, même que certains prennent des notes ou prennent conscience de différentes choses. Et à contrario, et c'est pour ça que je voulais revenir à ça aussi, c'est est-ce que tu peux nous en dire plus, même si je pense que tu as déjà démarré ta réponse, sur ta classe d'actifs de prédilection, qui est la classe d'actifs qui produit la valeur ajoutée, et comment tu vois la chose, comment est-ce que tu, en quelques secondes, en quelques minutes seulement, hein, bien sûr, parce que ça prendrait des heures à nous expliquer tous les détails, mais comment est-ce que tu choisis un actif, comment est-ce que tu constitues un portefeuille, qu'est-ce que tu regardes en premier dans une société avant d'investir dedans, ou même avant qu'elle n'attire ton attention concrètement, parce que j'imagine que tu peux passer des heures potentiellement à lire des rapports, des documents, à t'intéresser à la société, etc., en profondeur quand vraiment tu te dis j'ai trouvé ma pépite. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet, vu qu'on a eu le contraire opposé, là au moins on a l'idéal de Rémi.
Oui. Alors, pour ce qui est du coup des actifs, je m'intéresse majoritairement à la classe d'actifs qui, d'un point de vue indiciel, est la plus rentable en bourse, qui sont ce qu'on appelle les small caps, donc des entreprises qui ont une capitalisation boursière globalement inférieure à 2 milliards. Parce que sur ces entreprises-là, la liquidité est trop faible pour que des fonds d'investissement y arrivent, et donc on a un certain avantage vis-à-vis des particuliers. De plus, comme le disait l'investisseur James Slater, un éléphant ne galope pas, et c'est vrai que c'est plus facile pour une entreprise comme une petite entreprise, tout simplement, hein, de passer de 200 millions à 400 millions de capitalisation que pour une entreprise comme Google de passer de 1 trilliard à 2 trilliards. Et en plus de ça, du coup, il y a plus de défauts de valorisation. C'est souvent des boîtes qui sont encore possédées par les fondateurs, donc il y a encore la vision du fondateur qui peut amener bien plus haut ces boîtes. Et d'ailleurs, le Crédit Suisse avait proposé une étude à ce sujet qui démontrait que les boîtes en Europe possédées par des familles avaient de meilleures performances que la moyenne. Et donc, je vais souvent vers des, ce qu'on appelle, petites capitalisations sous-évaluées, donc avec justement des ratios de capitalisation assez intéressants, parce que l'écueil dans lequel on tombe souvent, c'est souvent de se dire, eh bien, il faut aller vers de la croissance pour chercher de la rentabilité, alors que c'est faux. Il y avait une étude de Dimsom, Sutton et March, justement, qui avait été publiée sur une étude de 100 ans qui démontrait que les pays émergents étaient moins rentables, justement, que les pays sous-évalués, parce que les pays émergents étaient sujets à la surévaluation, leur croissance attire, donc on va avoir tendance à acheter des choses plus chères que ce qu'elles ne valent. Et vous ferez de bien meilleurs rendements en immobilier en achetant un appartement à Tourcoing que vous diviserez en deux appartements et vous en ferez de la location courte durée plutôt qu'en achetant un penthouse aux Champs-Élysées. Ça beau pas être sexy, le fait d'aller vers des petits investissements sous-évalués nous permet d'avoir plus de rentabilité. Donc ça, c'est la classe d'actifs d'une manière générale. Ensuite, vis-à-vis du process, je vais m'intéresser à trois choses. Du coup, la valorisation, le prix auquel j'achète, l'avantage concurrentiel, donc tout ce qui va être marge, charge d'intérêt par rapport aux résultats d'exploitation, etc., ce qui va permettre de voir la confiance du créancier qu'accorde le créancier et les intermédiaires financiers à cette entreprise. Et derrière, la gestion, donc la dette, la liquidité, les dépenses d'investissement de capital, etc. Vis-à-vis de ça, je vais lister un certain nombre de critères et je vais utiliser un screener qui est un logiciel qui permet de dénicher automatiquement des entreprises partout dans le monde correspondant à ces critères financiers, comme celui que j'ai créé, donc value-investing-screener.com, qui est du coup le logiciel qu'on a créé qui nous permet de dénicher des entreprises sous-évaluées partout dans le monde. Donc là, à ce moment-là, on a fait l'analyse quantitative. On a notre liste d'investissement et à ce moment-là, il va falloir lire des rapports annuels pour savoir si l'entreprise a une bonne stratégie pour 10, 15, 20 ans et pour mériter finalement l'apport de nos capitaux à son capital. Et grâce à ça, on va pouvoir constituer une watchlist de boîtes qui ont réellement un bon potentiel, qui sont price makers dans leur secteur, qui ont un bel avantage concurrentiel, qui ont une belle stratégie d'investissement, etc. Et ensuite, il va falloir constituer le portefeuille. Pour la constitution du portefeuille, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'être exposé sur tous les secteurs. Et ça, c'est un point que je tiens à souligner parce que dernièrement, la majorité des gens dont j'auditais le portefeuille en 2021 avaient uniquement des valeurs technologiques parce que c'était globalement ce qui était monté lors des 5 dernières années. Et c'est une bêtise parce que les valeurs technologiques sont performantes dans les cycles d'expansion, mais lors des cycles de récession, elles s'effondrent. Alors que, par exemple, le secteur de l'utility est moyennement performant en cycle d'expansion, mais lors des cycles de récession, c'est vraiment lui qui surperforme. De la même façon, en début de cycle d'expansion, ce sont les transports qui vont performer et en fin de cycle d'expansion, ce sont les technologies. Exemple, BMW, a fait globalement, il me semble, x3 environ, de 2009 à 2014. Et donc, l'idée, ça va être de ne pas anticiper la pluie, de ne pas faire l'erreur d'anticiper la pluie, parce qu'on n'anticipe pas un signe noir. On ne peut pas anticiper un Covid-19, on ne peut pas anticiper un 11 septembre, on ne peut pas anticiper une hausse ou une baisse des taux d'intérêt, on ne peut pas anticiper une guerre en Ukraine. Et de ce point de vue-là, bien, ce que je vais chercher à faire, c'est d'être exposé sur tous les secteurs pour bien, finalement construire un radeau qui me permettra d'être hors de l'eau, au-dessus de l'eau, quels que soient les cycles économiques. Ensuite, une fois que ce point-là est constitué, on va tout de même faire attention à avoir quelques large caps parce que c'est important d'être, de mixer les actifs, bien que les small caps, un point que je n'ai pas souligné, sont extrêmement décorrélés du marché, c'est-à-dire qu'elles ont tout de même des variations bien différentes du marché, ce qui va être intéressant. Et au niveau de l'allocation, on va aussi chercher à être parfaitement diversifié géographiquement. Parce que si demain les États-Unis rentrent en guerre commerciale violente avec la Chine, si la Chine envahit Taïwan ou si la Russie se met à faire encore plus de dégâts, pour le coup, en Australie et en Amérique du Sud, ça se passera bien. Et en Afrique du Sud aussi, qui est un pays qui a d'ailleurs, dont je salue la qualité des sociétés minières dans l'or. Et c'est extrêmement important du coup d'être également diversifié géographiquement pour que, quelle que soit finalement la réalité économique qu'on ne maîtrise pas, on soit protégé grâce à sa diversification géographique. Et derrière, au niveau de l'allocation globale, pour savoir exactement quel pourcentage d'actifs on va avoir, quel pourcentage finalement d'argent on va avoir dans chaque actif, je vais utiliser notamment les théories du prix Nobel Harry Markowitz, optimisées avec des séries Monte Carlo pour vraiment chercher le point de volatilité minimal du portefeuille et chercher la façon dont les actifs peuvent le mieux se compenser pour construire un portefeuille aussi efficient que résilient, pour la faire courte.
Ouais, c'est super intéressant et ça me permet d'introduire parfaitement ton logiciel finalement, même si c'est pas du tout le but du podcast de faire une promo, une pub, mais je pense que toute personne sensée qui écoute tes propos se rend compte de plusieurs choses. Un, la passion, deux, la compétence dans un premier temps, l'expertise également, et que possiblement certains voudront aller plus loin avec toi. D'ailleurs, je mettrai les liens te concernant directement sous le podcast. Parlons long terme sur YouTube et on mettra différents liens. Tu me partageras notamment les liens du screener du logiciel. Et tu vois, typiquement, la plupart des gens peut-être qui nous écoutent et s'intéressent et voudraient aller plus loin dans ce que tu dis et dans ce que tu fais pour eux-mêmes pouvoir en tirer profit, effectivement, ne sont pas experts. Et vont se dire, OK, ouais, c'est super intéressant, OK, c'est comme ça qu'on analyse une boîte, OK, top, mais je ne sais pas faire. Et j'ai le sentiment, selon ce que j'ai compris, qu'effectivement, ton logiciel permet de faire ça, entre autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard du logiciel que tu as créé, pourquoi tu l'as créé, quelles ont été aussi les complexités pour créer ce logiciel? Et une troisième question, même si c'est très désagréable de répondre à plusieurs questions à la fois, je sais, je me pose toujours cette question, tu vois, parce que quand tu vas nous raconter ton logiciel et comment tu me l'as présenté, tu me l'as raconté, tu m'avais posé deux, trois questions aussi avant de faire ton lancement qui s'est super bien passé, encore une fois, félicitations, je suis vraiment content pour toi parce que tu le mérites. C'est la question qu'on se pose, une fois qu'on a l'explication et qu'on se dit « waouh, c'est une idée de génie, c'est trop cool », c'est pourquoi personne n'y a pensé avant. Est-ce que c'est une problématique de compétence ou est-ce que c'est déjà existant mais sous une forme différente et du coup, ce n'est pas accessible au grand public? Enfin, il y a différentes variables à chaque fois qui rentrent dans l'équation de cette réponse. Mais ouais, éclaire-nous à propos de ce logiciel. Ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent et ça l'est aussi pour moi.
OK. Alors, je vais répondre à tes trois questions du coup. La première, donc celle du pourquoi. Le pourquoi, c'est assez simple. Du coup, en ayant accompagné des centaines de personnes, la problématique du temps de l'analyse était bien évidemment là et il y a des alternatives et je reviendrai sur ce point du coup qui est ta troisième question, mais ces alternatives n'étaient pas assez complètes, notamment par rapport à la liste de critères que je suggère à mes étudiants et à mes clients d'une manière générale. Et donc on a créé ce logiciel pour vraiment pour permettre de dénicher en un claquement de doigts des entreprises qui correspondent à tous nos critères financiers et pour faire du coup gagner du temps en fait tout simplement aux gens qui souhaitent faire ça et pour rendre ça également plus facile à nos clients hein, du logiciel. C'est une boîte différente, Value Investing Screener. On a créé une formation vraiment compacte interne au logiciel, qui est une formation de 2 heures où finalement je décris toute ma stratégie sans aucune retenue, tous mes critères, etc. pour que n'importe qui puisse finalement aller sur le logiciel, se connecter, suivre la formation et en 2 heures être opérationnel pour dénicher des actions sous-évalué partout dans le monde. Et c'est réellement pour ça qu'on a créé ça. Et, et je dirais qu'on l'a aussi créé pour nous. Enfin, à la base, c'était en fait ce logiciel n'est que la continuité des codes Python que j'avais développés. Parce que, bien évidemment, ces recherches, je les avais en amont, moi aussi, automatisées pour moi, en codant moi-même les algorithmes. Encore une fois, là-bas, je suis ingénieur et j'avais fait ça. Aujourd'hui, c'est une équipe de développeurs qui s'occupe, bien évidemment, de construire et d'améliorer ce produit. Et donc, on a construit ça pour nous, on a construit ça pour nos clients. Encore aujourd'hui, on a mis en place, il faudra que je te montre un petit peu le processus d'amélioration continue qu'on a mis en place. On crée constamment de nouvelles fonctionnalités sur la base uniquement des retours de nos clients. Toutes les nouvelles améliorations sont uniquement le résultat des retours de nos clients pour vraiment construire. Enfin, on a construit le produit de nos rêves. Maintenant, il faut qu'on construise le produit qui est le rêve de nos clients. Donc, on l'améliore constamment. Et c'est comme ça qu'on créera de l'inertie, une réelle flywheel, comme disent les Américains. Maintenant, la complexité, elle était multiple. Il fallait constituer une équipe avec tout ce que ça induit comme complexité. J'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, en ayant un bon réseau et des gens de talent autour de moi, d'avoir des amis qui nous ont rejoints aujourd'hui, Value Investing Screener, d'ailleurs par long terme aussi, hein, mais Value Investing Screener, c'est vraiment une boîte d'amis. J'ai eu aussi quelques clients qui nous ont rejoints et qui se sont formés avec mon contenu et qui sont aujourd'hui des prestataires de Value Investing Screener. Et en matière de complexité technique, il y avait notamment la donnée financière n'est pas une donnée, c'est souvent une donnée qui est donc ce qu'on appelle scrappée, donc collectée sur le net, donc elle n'est pas parfaitement propre. Et donc il y avait tout un travail de traitement de données. Derrière, manager des développeurs n'est pas simple. Souvent, lorsqu'un entrepreneur a une idée de logiciel, il se dit je vais embaucher un dev, mais c'est vraiment une erreur. Ma compagne est développeuse, donc je savais comment globalement m'y prendre. Et l'étape essentielle, c'est de faire faire le design par un UX designer. Parce que c'est vraiment une étape qui facilitera tout et qui vous permettra de construire un produit ergonomique, et je reviendrai sur ce point en dernière partie de cette réponse, de cette longue réponse. Et l'autre étape, c'est de mettre en place un poste qui est absolument clé, qui est le poste de product manager. Et le product manager, c'est celui qui va vraiment faire la traduction de ce que tu souhaites faire, ce que tu souhaites construire en tant que fondateur, et la réalité du design aussi, pour construire ce qu'on appelle des user stories. On utilise la méthode Scrum Master pour construire des user stories digestes pour les développeurs. Et derrière, il va organiser également des sprints pour que les développeurs, quand ils arrivent, ils soient vraiment assis sur un fauteuil très confortable avec les petits fours, etc., pour faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire construire. Et les développeurs sont des génies, sont des êtres qui sont extrêmement, sont des key performers d'une boîte, et ce sont des êtres qui sont extrêmement efficients dans leur domaine. Et il faut les laisser dans leur zone de génie. Et pour ça, il faut vraiment mettre en place tout un process autour qui leur permette d'exprimer uniquement leur zone de génie. Et c'est à ce moment-là que ça nous permet de faire des énormes économies de temps, parce qu'on n'a pas besoin de refaire des choses derrière, parce que ça a été vraiment pensé en amont. Et de coup aussi, parce que ça leur permet de pas faire ce qu'ils ne savent pas faire, comme du design ou autre. Donc ça, c'est pour la complexité. Et enfin, le pourquoi personne n'y a pensé avant. Il existe des alternatives. Il existe bien évidemment des screeners. Mais souvent, comme le dit Patsia Bien, être fonds manager numéro 1 au monde, fonds manager numéro 1 au monde dans le stock picking de Small Cap Value, justement, qui est un mentor et un ami, et partenaire aujourd'hui donc du fonds Helsinki Capital Partner, il m'a dit, il a fait une interview sur ma chaîne, il a dit, mais Rémi, mais ton screener, je l'adore, il est magnifique parce qu'il est ergonomique. Ton approche visuelle et simplifiée permet de rendre ça digeste. Et c'est vraiment le point aujourd'hui, les screeners qui ont assez de granularité pour que je puisse les utiliser et obtenir des résultats intéressants, ils sont juste... une ergonomie de 2005 pour te donner une idée, avec un UX design, mais même en lisant une documentation, t'as pas envie d'utiliser l'outil, quoi. Et ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de se différencier par une offre extrêmement ergonomique. On a voulu créer le Apple finalement des stock screeners, et on a voulu over deliver. Donc on a rajouté en plus de ça une formation en interne au logiciel, et on a fait une offre de lancement en lifetime offer, c'est-à-dire que ceux qui ont profité de notre offre de lancement, là, elle continue encore, mais selon la date à laquelle vous écouterez le podcast, elle sera encore là ou pas, on verra. Mais en tout cas, ceux qui ont profité de notre offre de lancement ont accès à vie, du coup, au logiciel. Et ce qui nous a permis également, dans cette logique de bootstrap, d'avoir également les liquidités, parce qu'on ne fonctionne pas sur la levée de fonds, pour pouvoir embaucher d'autres développeurs récemment et continuer à se développer.
C'est super, tu as répondu même à ma question suivante. C'était justement As-tu totalement autofinancé le développement de ce logiciel? Tu m'as répondu ici que oui, ouais, vous n'avez pas fait, voilà, pas fait recours à des investisseurs ou autres, et vous avez bootstrap.
Il y a eu quand même besoin d'un petit peu d'investissement, mais du coup, je les ai apportés avec mon autre société. Mais sinon, ouais. Non, d'une manière générale, en matière de coûts, pour tout te dire, cet investissement, enfin, ce logiciel, si tu le fais développer par une boîte genre BAM ou autre, qui sont des prestataires qui peuvent faire ça pour vous, globalement, tu en as pour environ 200 000 euros. On s'en est sorti, Alec, pour moins de 9 000 euros de développement.
Waouh! Incroyable! Mais du coup, tes développeurs, tu leur as donné des parts du logiciel. Comment tu as fait pour les incentiver au point qu'ils acceptent de travailler aussi peu cher, entre guillemets?
Je suis pas radin. J'ai conservé 55% des parts, mais sinon, j'ai donné tout le reste. C'est d'accord. Je trouve ça beaucoup plus sympa de devenir millionnaire.
De vivre l'aventure ensemble.
Et puis de devenir millionnaire à plusieurs que de le devenir tout seul. Tu vois. C'est l'idée. Et ça permettait de les inclure dans le projet. Et puis fondamentalement, je trouve que le pire ennemi de tout projet, c'est notre ego. Et j'aurais jamais réussi ce projet sans eux. Donc, c'est normal qu'ils aient aussi une part du gâteau.
Totalement.
Ça me semblait normal. Et ensuite, ça a été soit ça pour certains, et pour d'autres, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires sur l'année 1.
D'accord.
Sachant qu'ils ont eu du coup une confiance, entre guillemets, aveugle dans ma capacité de lancer, de réussir ce projet, parce qu'on a réussi un lancement. On a réussi un lancement qui a induit les chiffres dont on a parlé tout à l'heure. Donc pourcentage du chiffre d'affaires, et puis derrière, et surtout les onboarder sur un projet, et ce qui est essentiel, et le prix n'est pas, enfin, le prix et la réussite même du projet, enfin, honnêtement, j'ai pris presque, je pense, plus de plaisir sur la construction du logiciel sur les 3 premiers mois que sur le lancement le jour même. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Et ce que j'ai proposé à mes collaborateurs, c'est pas un pourcentage d'une boîte, c'est une aventure. Aujourd'hui, on vit une aventure qui est juste magnifique.
Ouais, totalement. Non, mais 100% d'accord. Et dans les 45%, est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu les as donnés à un seul individu ou tu l'as divisé en plusieurs individus à part égale, ou tu as vraiment été très méritocratique dans ta réflexion? C'est souvent une question que j'aime poser aux entrepreneurs que j'ai ici, parce que, tu sais, constituer une équipe, c'est pas simple. Fidéliser, garder une équipe, incentiver l'équipe, ça l'est encore moins. Et tu sais, aujourd'hui, il y a de plus en plus ce besoin de, voilà, de, et c'est normal, hein, mais de rémunérer à sa juste valeur les personnes, qu'elles se sentent bien. Et souvent, ça passe par de l'equity, justement. Donc, parfois, il y a du BSPCE, parfois, il y a du vesting option, parfois, il y a d'autres types de montages, parfois, il y a des intérêts, des avantages proposés différents, tels que tu l'as évoqué, un pourcentage du chiffre d'affaires sur N+1 ou des choses comme ça. Donc, comment est-ce que tu as fait ça? Exemple, il y a 3 personnes, vous avez dit, OK, bon, 15 chacun. Ou c'était plus complexe que ça?
Alors, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Estelle, qui est vraiment la CTO, a pris 30%. Et Timothy, qui est mon bras droit, a pris 15%. Et en fait, c'est plus complexe sans l'être vraiment. En fait, on a débattu sur, selon eux, quelle était la valeur la valeur monétaire de leur apport dans la société, si globalement on réussissait à, sur 2 ans, à amener le projet à 1 million d'euros. Et vis-à-vis de ça, on connaissait globalement entre 500 000 et 1 million. On connaissait le coût de développement, on connaissait le coût. Mon bras droit s'occupe, a vraiment pris en main la partie product manager, et il y a eu notre product manager qui, dès le début, était là, qui était d'ailleurs une ancienne collègue d'Estelle, et qui initialement a fait son stage chez nous et qu'aujourd'hui on a repris en freelance. Et donc on a eu ce débat là, et ensuite en fait, d'une façon très simple, je leur ai demandé ce qui leur semblait juste, et je leur ai donné ce qu'ils m'ont demandé.
Ah, c'est bien, c'est super super intéressant d'avoir cette approche très cartésienne, encore une fois, de la chose, et ça fait du sens. C'est top, parce que, tu sais, la plupart des gens, quand ils font face à un challenge, exemple, j'ai une idée, j'ai envie de la créer, j'ai envie de la rendre possible, ah mais j'ai pas forcément les compétences, ou ah mais j'ai pas forcément les fonds, ils vont se trouver cette excuse et prendre cette excuse comme argent comptant et ne pas aller plus loin, malheureusement. Or toi, du coup, tout de suite, tu t'es dit, bah non, je vais constituer une équipe autour de moi, je vais trouver des solutions, je vais faire en sorte d'avancer. Et j'ai vraiment cette notion d'investir le minimum pour pouvoir, tout en gardant en compromis la qualité de la chose et en allant chercher le meilleur ROI de cet argent investi. Et franchement, bah, c'est un succès, hein. C'est un succès encore une fois, et félicitations pour ça. Et c'est quoi pour toi la vision justement du futur? Parce que tu parlais de faire 500 000 à 1 million les deux premières années avec ce logiciel. Aujourd'hui, connaissant les chiffres du lancement, d'ailleurs, ceux qui s'intéressent à avoir plus de détails, tu as fait une publication, un post sur LinkedIn en transparence où tu as évoqué tous les chiffres de ton lancement, etc. Et ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent. Voilà, aujourd'hui, est-ce que cette prévision que tu avais posée initialement avant le lancement reste la même? Est-ce qu'elle a changé? Ou est-ce que tu te vois dans 3 ans, 4 ans, 5 ans avec ce logiciel? Ça peut être intéressant, et puis comme ça on va suivre ton avancée dans les années qui vont suivre, et voilà. Et ah oui, et une autre question, tiens, une petite question rapide réponse, quel est le prix du logiciel, qu'on se rende compte?
Okay. Alors la question 1 c'est les objectifs, et la question 2 c'est le prix, je me note. Ouais. Pour ce qui est de la question 1, les objectifs c'était 1 million sur l'année 1 ou 2, je pense qu'on les fera sur les 6 premiers mois. Et ensuite, à partir du moment où on aura fait 1 million, je pense qu'on va surtout s'axer sur de l'affiliation marketing. On va essayer de partir, je vais essayer de faire un truc que j'ai jamais encore fait en m'entourant des bonnes personnes. Ça va se mettre à acheter de la pub, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai jamais investi dans de la publicité. Et ça viendra donc à ce moment-là. Pour du coup ce qui est le logiciel. Ensuite, on aimerait bien continuer à développer la boîte sous un modèle un petit peu à la Agora Financial, qui produit des newsletters, mais vraiment en fait en développant ce qu'on a d'avantage concurrentiel, c'est-à-dire en développant des logiciels. Donc créer d'autres petits logiciels qui derrière nous apporteront, qui résoudront des problèmes très intéressants comme celui des ETF ou autres, et qui derrière amèneront du trafic vers le logiciel principal qui est Value Investing Screener, et derrière faire comprendre la boîte, allouer le capital avec justesse et par rapport au flux de trésorerie qui en découle et au succès qu'on aura et au degré d'automatisation qu'on aura, il y aura forcément à un moment donné une seule question qui se posera, ça sera soit going to public, soit exit, et à ce moment-là d'autres questions se poseront. Ça dépendra aussi du souhait que j'ai d'implication personnelle dans cette entreprise, parce qu'à partir du moment où tu coaches une boîte en bourse, ton cours est lié à ta vie privée aussi, donc il faut faire attention à ça. Et en même temps, c'est aussi un rêve, donc on verra. On verra le processus d'allocation de capital aussi qu'on met en place. Est-ce qu'on garde uniquement la bourse, ou est-ce qu'on fait le choix également dans une stratégie d'allocation de capital plus active d'aller acquérir des concurrents pour faire comprendre du coup notre logiciel? On verra. Mais en tout cas, en matière de vision, déjà à 6 mois, on est du coup sur une stratégie majoritairement d'affiliation marketing, ensuite media buy, ensuite donc logiciel annexe qui piperont dessus, et puis continuer à louer le capital, sachant que la stratégie qu'on a, on peut la conserver pendant 20 ans, elle sera toujours valide. Donc de ce point de vue-là, avec des retours sur investissement de 10 à 20% par an, ce qui nous permettra dans tous les cas faire des dizaines de millions. Donc ça c'est l'objectif pour ce qui est de la boîte. Et vis-à-vis du prix du logiciel, concrètement ce genre de logiciel, pour citer un concurrent, Gros Focus, ils vendent ça autour de 420 euros par mois. Et c'est typiquement un concurrent sérieux qui permet de proposer ce qu'on fait. À l'heure actuelle, la lifetime offer que l'on propose, je souligne que c'est à l'heure actuelle, c'est 995 euros et tu as accès au logiciel à vie.
Magnifique. La seule question que je me pose, c'est pourquoi j'ai pas encore une licence. Il faut que j'en prenne une.
Ouais. Le truc, c'est n'étant pas le seul actionnaire, je peux pas en offrir à tout le monde, sinon je le
fais. Ah non, mais je parlais de la payer. Je parlais de la payer. Ça a de la valeur.
N'hésite pas à s'en prendre une.
Bien sûr. Non. Ça a de la valeur. Je parlais vraiment de la payer, hein, par respect pour ton travail et même celui effectivement des différentes personnes qui ont contribué au projet. C'est une certitude. En tout cas, c'est une offre très intéressante, surtout pour les personnes qui sont actives sur les différents marchés que tu as évoqués et qui ont une vision long terme de la chose. C'est vraiment le top.
Et j'aimerais bien juste souligner un point vis-à-vis de cette offre, mais je pense que ça pourrait être même très certainement un point de conclusion, mais un point d'entrepreneuriat vis-à-vis de cette offre. On a fait le choix d'entrepreneuriat et de retour sur investissement. On a fait le choix également de mettre une offre complètement garantie, satisfait, remboursée pendant 30 jours. C'est-à-dire que des gens peuvent bien aller sur notre logiciel, l'utiliser pendant 30 jours, suivre toute la formation, puis demander un remboursement. Et je suis, et sans aucune condition, on les rembourse. Et je suis complètement aligné avec ça pour une raison. D'une part, parce que je trouve que c'est intéressant pour encourager les gens à essayer le produit, et, etc. Et d'autre part, d'un point de vue investisseur et retour sur investissement, si en mettant aucune garantie, vous faites sans vente, en mettant une garantie satisfait remboursée totale, et en étant bien évidemment en respectant cette promesse, vous allez monter à 120 ventes. Là-dessus, eh bien, ce qui va induire votre taux de remboursement, ça va être une moyenne plus la qualité de votre délivrabilité. Cette moyenne, elle est autour des 3 à 5%. Et derrière, la qualité du délivrable va faire que eh bien, vous allez avoir un remboursement de globalement 3 à 5% à 20% si vraiment vous n'avez pas respecté finalement vos clients en proposant des produits qui ne sont pas qualitatifs. Si vous êtes assuré de la qualité de vos produits, et disons que même en visant sur une tranche haute, vous vous accusez un taux de remboursement de 10%. Au lieu de faire 100 ventes, vous avez fait 108 ventes. Donc, en matière de retour sur investissement, le fait de faire confiance, le fait de proposer une garantie qui vous engage finalement à délivrer de la qualité, c'est rentable. Donc, n'hésitez pas à faire confiance, à proposer des grosses garanties parce que c'est ce qui permet aussi à vos clients d'être plus rassurés pour passer à l'action, pour vous faire confiance. Et ça permet également un meilleur retour sur investissement, ce qui est mon obsession.
Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est super intéressant. Et surtout, le point clé de ce que tu viens d'évoquer, c'est la qualité du produit qu'il y a derrière. Tu disais que ça peut aller de 3 à 20%. Ça peut aller de 3 à 90% si vraiment votre produit est absolument horrible. En revanche, j'imagine que dans ton cas, tu dois être entre ces 3 et 5% de demande, voire peut-être même moins, dans le sens où...
Des 3, ouais.
Voilà, tu vois, ça m'étonne même pas. Parce que voilà, te connaissant la qualité du produit, sans même avoir eu accès au produit, mais tu m'avais fait une démo lorsqu'on s'était appelé pour... je l'avais vu avant son lancement, mais très rapidement. C'est clair que ça ne m'étonne pas. Un autre sujet, c'est la dernière question... que j'ai pour toi, que je pose à chaque fois aux personnes qui passent par le podcast Le Déclic, c'est s'il y a une chose que tu n'as pas encore partagée dans le podcast, mais que tu voudrais absolument partager dans le podcast, qui a créé chez toi une transformation limite identitaire, tant sur le plan pro que sur le plan perso. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être une citation, ça peut être... une situation dans un contexte précis, ça peut être une anecdote, une phrase de quelqu'un, enfin peu importe, mais s'il y a vraiment quelque chose que tu veux impérativement partager à ceux qui nous écoutent et que tu te dois de nous le partager, eh bien ta carte blanche, la parole est à toi.
Ok. Pour ceux qui notamment... pour ceux qui notamment hésitent à se lancer, et puis même je pense que le propos que je découlerai fera écho à certains entrepreneurs, respectez-vous plus que vous ne respectez vos employeurs, c'est l'idée, et je vais m'expliquer. Dernièrement, j'ai eu ma sœur au téléphone, ma sœur qui a fait une thèse incroyable sur cette thématique, et elle a aujourd'hui un emploi. Et je lui dis, j'ai écrit un livre dernièrement qui a été best-seller, c'était un franc succès, et je l'ai poussée à écrire un livre, du coup, sur sa thèse. Elle me dit, mais j'ai pas le temps. Je bosse toute la journée, et quand je rentre le soir, j'ai besoin de me détendre, etc. Je dis, mais pourquoi tu fais pas le matin? Elle me dit, encore une fois, je suis fatigué. Je lui dis, mais en ne priorisant pas ton livre, ton projet personnel par rapport à ton travail, eh bien, tu respectes plus ton travail que tu ne te respectes toi. Tu arrives à l'heure au travail. Par contre, tu ne prends pas le temps de travailler ton projet. Et de ce point de vue-là, c'est absolument essentiel, selon moi, de mettre finalement son projet comme priorité dans sa journée. Levez-vous plus tôt le matin, ayez comme première priorité votre affaire, votre business ou ce qui fait le plus de sens dans votre business. Si vous avez pour projet de, eh bien, à un moment donné, vous vous êtes construit un coussin de sécurité, etc., eh bien, avant vos obligations opérationnelles, mettez ça comme focus. Et ça, je trouve ça essentiel. Et vis-à-vis de ça, il faut vraiment se considérer soi et investir en soi. Et ce qui a changé complètement, ce qui m'a changé complètement, c'est le fait de me prioriser dans mes études et vis-à-vis des travaux que j'avais. Quand je bossais chez Philippe Maurice, je suis assez efficace et puis on avait la chance d'avoir le télétravail, donc globalement j'arrivais à faire ce que j'avais à faire en 3 heures par jour, et le reste du temps je le consacrais à la lecture. Et moi, ce qui a changé ma vie, c'est le fait de lire ma finance. je lis 1 à 2 livres par semaine et le rendement, j'ai pu lire des quantités de livres assez importantes dans mon domaine. En implémentant aussi les livres, enfin, lire c'est bien, il faut prendre des notes et vraiment appliquer derrière ce que vous avez lu. Et c'est vraiment le fait de lire qui a changé ma vie. En lisant, on se retrouve à pouvoir être mentoré par, enfin, moi j'ai été mentoré finalement par des gars comme Peter Lynch, des gars comme Francisco Garcia Paramés qui ont été des gestionnaires de fonds et qui sont des gestionnaires de fonds qui ont réussi des performances hallucinantes, qui ont géré des centaines de millions et des milliards. Et ces hommes se sont posés 6 mois de leur vie pour écrire leur biographie, pour détailler leur stratégie. Et en lisant, vous vous faites coacher pour 19 euros par ces hommes-là. Et le fait de lire, honnêtement, a changé ma vie. Et pour lire, il faut s'accorder le temps de lire. Et pour ça, le fait de se respecter soi-même a changé ma vie.
C'est un très bon conseil que tu viens de nous donner là à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je te remercie, Rémi, pour ton temps, pour tous tes conseils et pour cet échange. Ce moment qu'on a partagé était vraiment super enrichissant pour tout le monde. D'ailleurs, si ce podcast vous a plu autant que je n'ai de plaisir à l'animer, faites-le nous savoir en le partageant sur toutes les plateformes et en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast, ça fera très plaisir. Et encore une fois, Rémi, à part te remercier pour ta présence et pour tout ce que tu as partagé, j'ai rien d'autre à te dire, donc merci encore.
Merci à toi pour l'invitation, Alec.